Bonjour à tous. Le texte qui va conduire nos pensées ce matin se trouve en Luc chapitre 10. Un texte aussi bien connu que le récit de la naissance de Jésus-Christ. C'est une parabole que Jésus a racontée, la parabole du bon samaritain, que nous allons lire ici en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui t'est tombé au milieu des brigands ? Ben, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, depuis quelques dimanches, quelques mois maintenant, nous rappelons quelques valeurs clés. Pour notre Église, des valeurs que nous espérons être au cœur de notre fonctionnement, qui font partie un peu de nos gènes et que nous voulons voir dans notre fonctionnement, dans notre croissance. On a vu E pour Évangile, et ensuite B pour Bible, et maintenant T pour Toulouse. T pour Toulouse, Toulouse et sa région. C'est une valeur clé pour notre Église, l'Église baptiste de Toulouse-Minimes. Je dirais que c'est une valeur qui va de soi, une évidence presque, mais on n'y pense pas toujours. Si Dieu nous a mis à Toulouse, eh bien, une valeur clé pour notre Église, c'est nos prochains à Toulouse. Si on était à Lyon, on aurait à cœur Lyon. Si on était à Paris, on aurait à cœur Paris. Si on était à Castelsarrasin, on aurait à cœur Castelsarrasin. Mais nous voici à Toulouse. Et si on se pose cette question, qui est mon prochain ? Bien, il est forte chance que ce soit un Toulousain. Alors, ce matin, on va parler des Samaritains et des prochains et des Toulousains. Je regrette que je n'ai pas l'accent qui va avec, mais il y a des places aussi pour les étrangers dans cette parabole. Alors, nous allons l'étudier. Après, vous dites, on est le 23 décembre, Noël c'est en 2 jours. J'attendais un texte de Noël. Pourquoi cette parabole du bon Samaritain ? Mais justement, ici, c'est l'histoire de Noël, parce qu'à Noël, Dieu est devenu notre prochain. À Noël, Dieu, il n'est pas passé outre nos vies, notre misère, nos besoins. C'est ça l'incarnation, Dieu notre prochain, Dieu notre voisin, Dieu avec nous, Dieu qui passe près de nous, Dieu avec nous, Emmanuel. Donc finalement, cette histoire, c'est aussi l'histoire de Noël où Dieu décide d'être notre prochain. Il a aimé son prochain, nous, comme lui-même, et a donné sa vie pour nous. Et de la même manière que Dieu, pour être notre prochain, il a formé un corps pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour être notre prochain dans cette crèche. Et bien de la même manière, un parallèle, on pourrait dire que c'est Dieu. Jésus, il a accompli son œuvre, il est remonté au ciel. Mais Dieu a formé un corps, le corps de Christ, maintenant la Bible appelle l'Église, nous, le corps de Christ. Et par ce corps de Christ, Dieu veut encore être le prochain du monde, de nos semblables. Et dans notre cas, si Dieu nous a mis à Toulouse, c'est que Dieu veut s'approcher des Toulousains. Et il veut que nos prochains soient une valeur clé pour nous. Et cette parabole va nous aider à le faire. Alors, cette parabole commence avec cette question, qui est mon prochain ? C'était la question de l'homme ici, en verset 29, qui est mon prochain ? Et si vous regardez bien, Jésus répond à sa question avec une autre question. Il y a une parabole qui l'accompagne, mais il répond à la question de cet homme par une autre question. Et la question par laquelle il répond à cette question, c'est « Lequel des trois te semble avoir été le prochain des autres ?» Donc, l'un pose « Qui est mon prochain ?» Jésus raconte cette histoire, puis « Lequel des trois a été le prochain des autres ?» Et puis il dit « Va et toi fais de même. » Alors, vous avez vu ça ? Vous avez vu ce que Jésus fait ? Vous avez vu la manière qu'il répond ? En fait, pour répondre à cet homme, Jésus reformule sa question autrement. Il dit lequel des trois a été le prochain de l'autre. Il ne demande pas lequel des trois a reconnu son prochain. Il dit laquelle a été le prochain de l'autre. Et en fait, Jésus nous aide. La question n'est pas tant qui est mon prochain. La question c'est comment puis-je être moi le prochain des autres. La question n'est pas tant qui est mon prochain, mais comment moi je peux être le prochain des autres. Lequel des trois a été le prochain, va toi fais de même. Et bon, la différence n'est pas énorme, il y aura des vérités à en tirer de toute manière, mais je crois que ça change beaucoup dans notre attitude. Et pour une église, c'est important d'adopter cette reformulation. Bon, qui est mon prochain, c'est une bonne question, mais après, la vraie question, c'est comment nous, on peut être le prochain des autres. Comment être le prochain des autres? C'est une question que toute église doit se poser. Comment être le prochain pour notre ville, pour notre région? Et cette parabole va nous aider ce matin. Alors pour ça, on va voir pour être le prochain des autres, on va voir le où, le qui, le comment et le pourquoi. Comment être le prochain des autres? Comment avoir Toulouse, les Toulousains comme valeur clé? Alors voyons le où, le qui, le comment et le pourquoi. Alors le où? Toute cette parabole se déroule dans un certain lieu situé entre Jéricho et Jérusalem. Et le premier homme qui passe, on précise là, verset 31, un sacrificateur qui fortuitement descendait par là, par le même chemin. Voilà, ce sacrificateur, il est là fortuitement. Alors, au début, en lisant vite, ma pensée, quand j'ai lu ce mot fortuitement, j'ai compris heureusement. Fortuitement, heureusement, mais fortuitement ne veut pas dire heureusement. Fortuitement veut dire par hasard. Par accident, littéralement, par accident. Il se trouve là par hasard, par accident. Alors, on connaît Jésus, c'est lui qui raconte cette histoire. Jésus ne croit pas trop au hasard, il a tout créé, il gère tout lui. Mais s'il parle comme ça, certainement c'est pour refléter l'attitude de cet homme qui se trouve là et qui estime qu'il se trouve là par accident, par hasard. Et c'est le même pour le deuxième homme. Un Lévite aussi qui arrivait dans ce lieu, l'ayant vu, passe outre. Donc, ces premiers deux hommes, ils sont là fortuitement, par hasard, par accident. Déjà, c'était une portion de la route, apparemment, où, voilà, pas forcément on voulait y être. On voit bien que c'est assez mal famé. Donc, c'est une portion de la route où on ne veut pas y être, et ces hommes sont là, et s'ils se trouvent là, dans cet endroit, c'est par hasard, c'est par accident, c'est imprévu tout ça. Alors ils sont même contraints d'y passer. Et on peut facilement les imaginer, même avant de voir cet homme en train de marcher. Oh là là, j'aime pas cet endroit, c'est pourquoi je suis là, mais je dois y passer, c'est sûr, mais c'est vraiment... qu'est-ce que je fais là? C'est nul. Alors ça c'est une manière de vivre le « où ». Mais le troisième homme, on précise ici, 33, un Samaritain étant venu là. Je me souviens d'un message de l'évangéliste Fernand le Grand, et tout son texte du message, c'était un mot « là ». Ce n'était pas de ce texte, mais un autre, pour dire que voilà, là, c'est là où Dieu, là. Donc il a réussi à prêcher tout un message sur deux lettres, là. C'est pas mon cas ce matin, mais en tout cas, le où est important ici. C'est là, dans ce lieu, cet endroit où il va agir en tant que prochain. Alors, c'est quand même une grande vérité pour nous à reconnaître ce matin. Où que vous soyez, c'est là où vous êtes. Où que vous soyez, c'est là où vous êtes. Et c'est pas fortuitement, c'est pas par accident, c'est pas par hasard. Où que vous soyez, c'est là où vous êtes. Vous savez, parfois, vous essayez de vous repérer, vous trouvez un plan de ville, une carte, et vous avez ce sigle, vous êtes ici. Alors, quand on réfléchit à cette phrase, ça dit rien, vous êtes ici. Ben, oui, vous êtes ici, je pouvais dire ça à longueur de vie, et ce serait vrai, vous êtes ici. Donc, quelque part, cette phrase n'apporte aucune information supplémentaire, vous êtes ici. Mais dans un autre sens, c'est l'information la plus clé qu'il vous faut quand vous regardez un plan de vue, repérez ce sigle, vous êtes ici. Alors je vous dis ce matin, vous êtes ici. Sur le chemin de la vie, quel que soit l'endroit, sachez que ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas fortuitement, et c'est Dieu qui est là. Alors pourquoi êtes-vous sur Toulouse même? Pourquoi êtes-vous sur Toulouse? Est-ce que c'est fortuitement ou est-ce que c'est heureusement? J'espère que vous pouvez dire, ah ben c'est heureusement que je suis là. Et je sais qu'il y a toutes sortes de circonstances qui a pu vous amener ici. Mais ça change tout dans notre capacité à aimer nos prochains, à accueillir nos prochains dans notre église aussi. C'est quand on y est et on y est heureusement. J'ai regardé, ça m'a étonné, mais j'ai regardé sur Wikipédia qui affirme que Toulouse serait la ville qui connaît la plus forte croissance dans toute l'Europe en ce moment. On parle de intramuros, pas forcément l'aire urbaine, mais Toulouse serait la ville qui connaît la plus forte croissance de toutes les villes européennes. Rien que ça, ça devrait nous aider à en faire une valeur clé pour notre église. Alors, Toulouse, peut-être, il y a beaucoup de monde qui veulent y être. Et peut-être c'est facile à aimer être là, c'est peut-être pas forcément un lieu mal famé entre Jéricho et Jérusalem. Mais d'autres jours, je suis sûr, de toute manière, ce serait moins facile d'y être. En fonction de la circulation, en fonction du quartier où vous habitez, en fonction de la situation au travail, en fonction de vos collègues, enfin, de vos voisins. Tout ça, ça peut rendre parfois la vie un peu difficile. Et à force... Cette attitude peut glisser dans notre cœur. J'aime pas cet endroit, j'aime pas cet endroit, j'aime pas cet endroit. Mais si je nourris ces pensées, c'est sûr que je vais passer outre mes prochains. J'aurai du mal à voir leurs besoins, à les accueillir avec joie. Je ne pourrai jamais être de bon samaritain parce que mes pensées vont être ailleurs. Et voilà, je vais passer outre. Jésus, quand il est venu dans notre monde, vous imaginez si Jésus a vécu toute sa vie dans la nostalgie du ciel, en comparant les choses ici-bas avec les choses qu'il connaissait depuis l'éternité. Jésus aurait pu passer sa vie en disant « j'aime pas cet endroit, j'aime pas cet endroit ». Il aurait pu dire ça dans la crèche, il aurait pu dire ça à Bethléem, il aurait pu dire ça à Nazareth, il aurait pu dire ça à Jérusalem. « J'aime pas cet endroit ». Parce que là d'où je viens, il n'y a pas de circulation. Là d'où je viens, il n'y a pas de poussière. Là où je viens, les gens sont sympathiques. Bon, Jésus avait toute raison de raisonner comme ça, mais c'est pas ce qu'il a fait. Bien avant que Claude Nougaro a chanté « Ô Toulouse », Jésus a chanté en pleurant « Ô Jérusalem, ô Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler et vous ne l'avez pas voulu ?» Jésus a aimé l'endroit où Dieu l'a envoyé, le où il a pris à cœur. Et même on voit dans sa manière de raconter des paraboles et des histoires, ben, il a su apprécier, maîtriser la culture, la ville autour de lui. Eh bien, Jésus a aimé l'endroit où Dieu l'a envoyé, même qui était cause de tous ses problèmes. Jérusalem était cause de tous ses problèmes et il a su dire « Oh, Jérusalem !» Alors... Au Toulouse pour nous, le où, ça c'est le où. Ensuite le qui, pour nous aider à aimer notre prochain, être cette église de proximité. Maintenant le qui. Qui est mon prochain? C'était la question. Mais Si vous regardez de plus près le verset 9, le verset précise qu'il a posé cette question parce qu'il voulait se justifier. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Parce que justement, juste avant, il avait demandé, posé une autre question, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et pareil, Jésus répond avec une autre question, bah, « Qu'est-ce qui est dans la loi ?» Toi qui es docteur de la loi, que dit la loi? Et lui, il a donné une, quand même, il a su avec sagesse résumer toute la loi. Il aurait pu lister peut-être toutes les lois, ça aurait été long. Donc, il a su, en tant que spécialiste de la loi, résumer la loi avec ses deux commandements, aime ton Dieu et puis aime ton prochain. Et Jésus dit, bon, très bien, on est d'accord. Alors, vas-y. On est d'accord, maintenant vas-y. Et là, ce docteur de l'Alba, il est un peu embêté. Parce que lui, il doit se rendre compte que peut-être il n'aime pas tout le monde. Alors lui, il veut pouvoir faire un tri entre les gens qu'il aime, qui sont sympas, et puis les gens qu'il aime moins. Mais il aimerait bien pouvoir dire, moi, j'aime mes prochains, et ce que j'aime pas, bon, ce ne sont pas mes prochains, donc j'échappe belle, quoi. Alors, voulant se justifier, alors qui est mon prochain? Alors, moi, oui, je veux bien aimer mes semblables, je veux bien aimer les aimables, je veux bien aimer mes proches. Ça, c'est d'accord. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Qui est mon prochain? Mais ce qui est si radical dans cette parabole, ce qui est si nouveau que Jésus introduit, c'est redéfinir ce qu'est un prochain. Et Jésus va montrer que nos prochains, justement, ce ne sont pas nos semblables, parfois loin de là. Alors, tout d'abord, il invente une histoire où il va prendre en considération un côté ethnique, qui n'est pas pareil entre juifs et samaritains. Donc Jésus, il ancre cette histoire dans les barrières socio-culturelles qui sont très connues, très profondes, même racistes à cette époque. Alors, il parle d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Je crois que c'est sous-entendu que cet homme, c'est un juif. Et puis, il parle d'un samaritain. Et vous savez comment ça se passait entre juifs et samaritains. Il n'y a rien de semblable. Niveau ethnique, les juifs passaient toujours outre la Samarie. Toujours les juifs passaient outre la Samarie. Les juifs détestaient les samaritains. Ils passaient leur temps à vouloir du mal. Alors, la réaction normale du samaritain qui vivra un juif dans cet état, la réaction normale, c'est riposter, c'est fêter son état. C'est le fouler aux pieds, même l'achever. Ça aurait été la réaction, on va dire, normale, attendue, juste en quelque sorte. Ces juifs m'ont toujours voulu du mal, maintenant, c'est mon occasion de lui rendre pareil. La riposte attendue. Et malheureusement, ça se passe souvent comme ça entre ethnies. Vous avez pensé, voulu du mal pour nous, mais ben, quand l'occasion se présente, on vous rend pareil. D'ailleurs, j'ai vu une photo hier, une photo de journaliste assez dramatique et triste. C'était dans la bande de Gaza. Les Palestiniens avaient trouvé des collaborateurs des Juifs, donc ils les ont tabassés, tués, et puis ils ont pris le corps, ils ont attaché le corps par les pieds, à une moto, et puis ils ont fait le tour de la ville dans les grandes célébrations. Un peu comme ils ont fait à Saint-Sernin, sur la rue du Taureau, d'ailleurs. Sauf que ce n'était pas avec une moto, c'est avec un taureau, donc rue du Taureau. Et voilà, la société, depuis l'époque jusqu'à encore maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne quand il y a des grosses différences culturelles, ethniques. On rend pareil, on rend le mal. Et si Jésus dit, ben, non, le prochain, c'est lui. Aussi, il y a le côté religieux qui est très différent. Les Juifs et les Samaritains avaient des croyances incompatibles, chacun traité de l'autre d'infidèle, d'hérétique. Chacun avait leur temple, leur manière de concevoir la vraie vérité, la vraie religion. Et dans la pensée encore de beaucoup aujourd'hui, et surtout à l'époque, c'est... Voilà, nous sommes prêts à t'aider, nous sommes prêts à t'aimer, te rendre service, dès l'instant que tu crois comme nous. On veut bien aider ceux qui méritent d'être aidés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des infidèles, des hérétiques, des différents. Alors, encore, la réaction normale, c'est un samaritain qui voit un juif, ou même si c'était réciproque, c'est de dire, ah, vous voyez, cet homme, il mérite son sort parce qu'il ne croit pas comme nous, il n'a pas accepté notre vérité, alors ça lui arrive, c'est Dieu qui le punit, tant pis pour lui. Et même pour les lévites et les sacrificateurs, quand on parle de ces différences religieuses, on pourrait dire que leur religion leur a fourni des raisons à ne pas aider cet homme. Vous savez, il fallait pas en devenir impur si on touchait à mort. Alors ils arrivent sur cet homme demi-mort, est-ce qu'il va mourir? Il vaut mieux que je ne le touche pas, parce que moi j'ai un service à faire aujourd'hui dans le temple. Alors si je le touche, je ne peux pas être un bon religieux. Donc la religion dans ce, a même fourni des raisons à ne pas s'occuper de cet homme. Mais Jésus, il renverse toutes ces manières de réfléchir qui sont profondément ancrées dans le cœur humain, et il dit voilà, le prochain c'est celui qui est même très différent, même qui n'est pas de votre ethnie, qui n'est pas de votre religion, qui n'est pas de votre qui n'est pas semblable à vous, c'est lui que vous pouvez aider et aimer. Et ça, c'est très fort pour nous à Toulouse. Si vous prenez cette définition du prochain et vous arrivez dans une grande ville cosmopolite comme la nôtre, là, vous voyez la force de ces paroles, vous voyez la force du témoignage chrétien qui dit on va vous aimer, on va vous aider, que vous croyez notre message ou pas. Ça, c'est fort. Alors le où, le qui, vous comprenez déjà à quel point Jésus met la barre haute devant cette question, qui est mon prochain? Déjà, vous pensez que c'est peut-être difficile à aimer son prochain, mais là c'est encore pire que ça. Regardez comment il faut aimer, comment il l'a fait. Donc le où, le qui, maintenant le comment. Comment être proche des autres? Comment être le prochain? Comment manifester cette proximité, cet amour du prochain? Eh bien, il me semble qu'il y a deux mots clés ici, c'est la compassion et la miséricorde, notamment dans des besoins concrets. Nous sommes appelés partout à partager l'évangile, à prêcher l'évangile, à annoncer notre foi, mais aussi à prendre soin des gens dans des besoins très concrets. Cet homme, ce n'est pas un traité d'évangélisation dont il avait besoin à ce moment-là, en tout cas. Le bon samaritain, il va, pour aimer son prochain, il va prendre soin, il va s'occuper de ses besoins. Il y a toutes sortes de besoins. Il y a des besoins de santé, besoins financiers, besoins de transport, besoins de logement, besoins d'accompagnement. Tous ces besoins-là, cet homme en avait besoin. Il avait besoin de quasiment tout. Il avait besoin de pansements, il avait besoin de transport, il avait besoin de finances, il avait besoin de logement. Eh bien, tout cela fait partie de la compassion et de la miséricorde que nous pouvons exercer, que nous voulons exercer autour de nous. Ce qui est fort, c'est que, et je pense que c'est fait exprès dans la parabole de Jésus, chacun des trois passants, on dit qu'il a vu un sacrificateur ayant vu cet homme, un lévite l'ayant vu, et un samaritain, lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion. Donc tous ces hommes, ils voient la même chose, mais il n'y a qu'un seul qui a les yeux pour voir ses besoins et agir par compassion. Et c'est ça le comment. Le comment, comment être prochain des autres, c'est avec ses yeux émus de compassion, avoir compassion et miséricorde et pouvoir faire quelque chose concrètement. Tout ce qu'il a fait, c'était très tangible, très concret. Et puis, comment il a fait, comment il a aimé son prochain, ce samaritain? C'est-à-dire, il ne s'est pas dit, je vais aimer mon prochain dès l'instant que ça ne me coûte pas trop de temps, pas trop d'argent, pas trop d'efforts. En général, c'est comme ça qu'on réfléchit. Je veux bien aider, pourvu que ça ne me coûte pas trop. Mais il y a quand même un risque de que prenne cet homme. Quand on arrive, déjà, apparemment, ce bout de chemin était mal famé, assez connu. Les gens, en entendant cette parabole de Jésus, ils reconnaissaient facilement le coin et le risque des brigands. Alors cet homme, il arrive, les hommes, ils voient un homme à demi-mort. Si l'homme n'est pas encore mort, ça vient de se passer. Quelle est la réflexion qu'on est obligé d'avoir? C'est que les brigands risquent de ne pas être loin. Alors, est-ce qu'ils chopent tout le monde qui passe par là? Est-ce qu'ils sont partis? Mais finalement, le Lévite et le sacrificateur, ils ont fait la seule chose intelligente en quelque sorte et ils se sont sauvés. Sauf qui peut. Mais ce bon samaritain qui est prêt à s'arrêter le temps qu'il faut pour soigner cet homme, c'est au risque de ses biens, au risque de sa vie. Et puis, ce qu'il fait, c'est formidable. Il est sur une monture. Il descend de sa monture, il donne sa place. Et lui, il va à pied. Et puis, il paye pour lui. Et s'il y a encore besoin, je vais payer. Tout ça, ça incarne ce que c'est l'amour du prochain, la compassion, la miséricorde que nous pouvons avoir autour de nous, que Dieu nous donne les yeux pour voir ses besoins. Je suis reconnaissant pour le ministère de la chorale là, qui a chanté cette semaine à Purpan. Il n'y a pas eu de traité d'évangélisation donné, mais une compassion, une miséricorde que les gens peuvent, je pense, reconnaître. Dans le temps, sacrifice qu'a pu faire les choristes. Je suis reconnaissant pour le ministère des visites dans cette église où effectivement c'est aller vers les besoins comme ça. Je suis reconnaissant pour le ministère de Sarah Fekir et des choses comme ça que nous pouvons soutenir où c'est beaucoup de compassion, de miséricorde. Ça c'est le comment. Le comment de cet amour du prochain. Et puis le pourquoi. On a vu le où, le qui, le comment. Et pourquoi aimer comme ça? Pourquoi aimer son prochain comme ça? Souvenez-vous la question à laquelle cette parabole répond. La question au début, c'était comment hériter la vie éternelle? Et lui, cet homme, le docteur de la loi, quelque part, il est prêt à aimer son prochain pour se justifier. Pour hériter la vie éternelle comme une œuvre, comme les œuvres de la loi, voulant se justifier qui est mon prochain. Et en fait, nous sommes tous comme lui. Nous cherchons tous à se justifier. Et la manière la plus typique, je crois que nos contemporains, nos proches, cherchent à se justifier, c'est dire, moi, oui, j'aime mon prochain. Voulant se justifier, oui, moi j'aime mon prochain, moi je fais l'aumône, moi je suis gentil, je suis un bon voisin, je suis impliqué dans la vie associative de ma ville. Donc tout ça c'est vouloir se justifier. Mais là, avec tout ce que nous venons de voir, Jésus vient de donner une définition de l'amour du prochain qui nous dépasse tous. Est-ce que vous aimez votre prochain comme on vient de lire? C'est-à-dire où que nous soyons, qui, n'importe qui, même nos ennemis, comment, avec compassion, avec miséricorde, avec grand sacrifice, c'est-à-dire si il faut faire tout ça pour hériter la vie éternelle, c'est cuit pour ce docteur de la loi et c'est cuit pour nous. Parce que entre faire l'aumône, être un gentil voisin, et être le bon samaritain, il y a un monde de différence. La chose, c'est que aussi longtemps qu'on cherche à se justifier par notre amour du prochain, aussi longtemps qu'on cherche à se justifier, il y aura des limites à notre amour. Parce qu'on le fait de manière intéressée. On le fait, mais la priorité, c'est soi-même. Et quand la priorité, c'est soi-même, il y a une limite. Pour le Lévite et le sacrificateur, oui, ils étaient prêts à mettre 2 pièces dans le tronc. Mais il y a une limite à leur amour du prochain, c'est que Quand ça me gêne, non, là, je passe outre, je me taille. C'est-à-dire, on n'irait jamais au-delà de soi-même si on cherche simplement à se justifier par une vie gentille, une vie qui aime son prochain. Jésus veut pousser cet homme un peu plus loin, même il veut le décomposer en fait. C'est un docteur de la loi, donc c'est un juif qui pose la question à Jésus, comment avoir la vie éternelle. Jésus aurait pu raconter, s'il voulait juste simplement montrer comment être un bon voisin, un bon prochain, Jésus aurait pu raconter son histoire autrement, en échangeant les rôles. Il aurait pu mettre le Samaritain comme celui qui tabassait et dépouillait, et un juif sympathique comme héros. Et là, le juif, il voit le Samaritain, on va dire que c'est un très bon juif, et très gentil, et il prend soin de ce Samaritain. Il aurait pu raconter comme ça, et on aurait appris un peu les mêmes vérités, comment aider son prochain. Mais le risque de ça, c'est ce juif qui pose la question, se félicite en disant « Oui, oui, notre race, notre peuple, nous les juifs, on est pas mal après tout. » Non, donc Jésus ne raconte pas l'histoire comme ça, il dit « C'est le juif qui est tabassé, dépouillé, et c'est le samaritain qui va le secourir. » Et s'il fait comme ça, je crois qu'il invite cet homme juif, à se reconnaître plutôt dans l'homme dépouillé, l'homme demi-mort. Si je vous raconte une histoire un jour, j'ai dit, comme une blague ou une anecdote, j'ai dit, il y a trois Français qui rencontrent un Américain. Alors, vous aurez tendance de vous associer, de vous repérer dans les Français, peut-être. Mais ici, Jésus raconte une histoire avec trois Juifs, un Samaritain. Il raconte un Juif, il invite le Juif à se retrouver, à s'associer. Alors, il ne faut pas s'associer aux Lévites, il ne faut pas s'associer aux sacrificateurs, il reste encore un, c'est l'homme qui est à demi-mort. Et là, ça change un peu la donne. Parce que, imaginons maintenant, vous êtes cet homme juif sur le point de mourir, et vous avez juste assez d'énergie pour voir qu'au virage arrive un Samaritain. Vous êtes sur le point de mourir, vous espérez que quelqu'un passe, et celui qui passe, c'est un Samaritain. Qu'est-ce que vous pouvez espérer là? Qu'est-ce que vous espérez? Quelqu'un que vous avez toujours détesté, haï, que vous avez calomnié dans votre tout au long de votre vie, et c'est votre seul espoir. La seule chose que vous puissiez espérer là, à ce moment, c'est la grâce gratuite, et que ce Samaritain ne vous rend pas l'appareil, mais il exerce une grâce gratuite dans votre vie. Et c'était l'histoire que Jésus a racontée. Le Samaritain a manifesté une grâce totalement gratuite et a restauré cet homme. Et là, cet homme maintenant rétabli, supposant qu'il est bien soigné à l'hôtellerie, il en sort, tout va bien dans sa vie. Maintenant, quel genre de vie va-t-il vivre? Quel sera son regard maintenant envers les Samaritains? Comment il va lui aimer son prochain? Ben, ça va pas être comme ce docteur de la loi voulant se justifier. Ça va être libre, ça va être joyeusement. Il va pouvoir enfin faire de même. Donc le pourquoi, là on arrive au pourquoi. Pourquoi aimer nos prochains comme ça? Eh bien, la seule manière, la seule raison d'aimer comme ça, c'est que si nous avons goûté un tel amour, si nous avons reçu l'amour, et ça c'est l'évangile. L'évangile dit non, on peut, si on cherche à se justifier par l'amour du prochain, on va vite se rendre compte qu'on ne les aime pas comme Jésus nous demande, et on va se culpabiliser constamment. Mais si on a goûté cet amour-là, là ça change le cœur et on est prêt à le donner. Et c'est ça cette parabole. Nous sommes invités à se retrouver surtout dans cet homme dépouillé, chargé de coups, laissé à demi-mort. Nous étions ce pauvre type, laissé pour mort, dépouillé à force de vouloir se justifier, à force de faire nos efforts, on était sans force. Et à ce moment-là, la personne la moins attendue, une personne méprisée de son époque et encore à la nôtre, notre ennemi, en quelque sorte, il passe par là. Et lui, agissant par pure grâce gratuite, il vient à notre secours. Donc ici, il y a le bon Samaritain, mais Jésus, c'est le meilleur Samaritain pour chacun de nous. Et là, vous voyez, Jésus n'a pas risqué sa vie, il a donné sa vie. L'homme est prêt à descendre de sa monture et mettre l'autre sur la monture. Jésus est prêt à descendre de son trône, se mettre sur une croix et échanger de place avec nous et nous mettre sur le trône.
Et lui, il paye pour tout. Et si, en, et si vous pensez que ce n'est pas encore suffisant, ben, il le dit, j'ai tout payé à la croix pour vous. Alors regardez maintenant vous, alignez les divinités et les dieux de ce monde, et je vous demande, lequel vous semble avoir été notre prochain? Alignez les dieux et les religions et les philosophies de ce monde, lequel vous semble avoir été notre prochain? Il y a une seule réponse, pour certains c'est peut-être difficile à dire quand il a demandé à cet homme lequel, il n'a même pas craché Samaritain, ça s'est introduit, il a dit celui qui a exercé la miséricorde. Eh bien, quel Dieu semble-vous avoir notre prochain? Eh bien, vous êtes obligé de dire, c'est celui qui est venu dans la crèche, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers nous à la croix. Et ça, c'est le pourquoi de notre amour. Pourquoi aimer nos prochains? Maintenant, nous avons une raison qui est suffisamment forte et bonne pour le faire vraiment. Pas pour se justifier, pas pour avoir la vie éternelle, mais parce qu'on l'a, parce qu'on nous l'a donné gratuitement et on veut la répandre aux autres. Nous habitions dans le quartier des Minimes, c'est l'église baptiste de Toulouse Minimes. Vous savez d'où vient Minimes, les Minimes? Eh bien, il y a longtemps, hein, il y avait une communauté de moines qui s'appelait les frères Minimes. Les frères Minimes, donc ils s'inspiraient un peu des évangiles, les petits frères, donc ils s'appelaient les Minimes. Et peut-être ils l'ont fait pour se justifier, j'en sais rien, mais nous sommes appelés à être, oui, les Minimes. Les Minimes dans le sens de Noël. Dieu, à Noël, Dieu, le grand Dieu de l'univers, il s'est fait minime, il s'est fait petit dans Jésus-Christ à la crèche pour aimer son prochain. Il a tout sacrifié pour aimer son prochain comme lui-même. Et il nous appelle à le suivre, il nous appelle à l'imiter. Donc nous, on va être, ce que l'on souhaite, c'est d'être une église minime. On ne cherche pas la grandeur, on ne cherche pas la réussite en soi, on ne cherche pas juste la croissance. On cherche à aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Et ça se passe par ce côté minime. Mais quand il y a ce côté minime, comme l'histoire de Noël nous rappelle, c'est qu'il y a une grande œuvre qui se fait dans les cœurs et autour de nous. Alors, va EBTM et fais de même. Que Dieu vous bénisse.